Bonsoir, Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Ce soir, Charlotte Garçon, Thierry Chaise et Antoine Guillot sont à mes côtés. À notre affiche, Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, Divine de Ouda Benyamina et France de François Ozon. Au cours de cette émission, vers 21h20, Lucille Comeau nous invitera à débattre autour d'une question liée à l'actualité culturelle. Ce sera dans le petit salon. Et puis, bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, vous pouvez gagner des exemplaires de Destins inoubliables. Le livre anniversaire de l'émission Une vie, une œuvre, paru en 2014 sous la direction de Mathieu Garrigou-Lagrange, une coédition France Culture et Albin Michel. Nous ouvrons cette émission avec Voir du pays, le nouveau film des Sœurs Coulon, Delphine et Muriel, qui avaient précédemment réalisé 17 filles, présenté en 2011 à la Semaine de la Critique, et qui, je dois dire, ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Entre-temps, Delphine Coulin, a publié un roman chez Grasset, Voir du pays, qu'elle a donc adapté pour le grand écran avec sa sœur. Le sujet de femmes militaires, Aurore et Marine, reviennent d'Afghanistan. Elles y ont effectué une mission de 6 mois. Sur le chemin du retour, elles doivent passer 3 jours à Chypre avec le reste de leur section, dans un grand hôtel au bord de la mer, pour ce que l'armée appelle un sas de décompression.
Nous venons d'arriver à Chypre. Alors je vais vous briefer un peu. Au programme de ce SAS, sport, relaxation et débriefing collectif.
Quoi ? Débrief collectif de quoi, là ?
Il s'est passé des événements au cours de ces 6 mois de mission sur lesquels il est peut-être bon de revenir.
Eh hey les gars, passer de la burqa au string, faudra m'expliquer le principe du SAS, hein ?
Nous sommes ici pour que vous puissiez rentrer tranquillement dans vos familles, en laissant tous vos mauvais souvenirs ici. Soyez précis, que les images soient le plus fidèles possible à ce que vous avez vu.
Ça s'est bien tiré de partout. On voyait rien.
Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre stress ?
Est-ce que je peux arrêter, là ?
Vous vous connaissez depuis longtemps ?
On était à l'école ensemble.
Mais les filles, elles combattent aussi ?
En fait, elles portent malheur.
Ta gueule, toi !
Moi aussi, je voudrais revenir sur l'embuscade à Mobayan. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous vu la même chose.
T'es content ?
Pourquoi tu m'as rien dit ? Non seulement t'as rien fait, mais en plus tu m'as rien dit !
On a vu la guerre, on n'est pas comme tout le monde.
Vacances.
Voir du pays sort demain sur les écrans. Nous en parlons à présent dans la dispute. Charlotte Garçon, vous commencez ?
Oui, on l'entend, il est question de voir, hein, pas seulement dans le titre, mais dans cette bande-annonce assez bien faite, finalement, qui résume malheureusement le film dans son entier, à mon sens. C'est-à-dire que effectivement, la problématique principale du film, c'est ce qu'on a vu. Est-ce qu'on peut se débarrasser aussi facilement de ce qu'on a vu à la guerre ? Est-ce que l'État est là pour le reformater, le transformer ces images traumatiques en autre chose pour que le soldat puisse continuer à être soldat et puis retourner la fleur au fusil au combat. Alors, c'est un film qui, dans mon souvenir, s'ouvre sur un plan, sur une pupille. On dézoome et là, on s'aperçoit qu'il s'agit de la belle pupille d'Ariane Labed, excellente actrice, vue notamment dans Un milieu d'hommes également, dans Fidelio.
L'Odyssée d'Alice.
Voilà, où elle était second sur un grand bateau, donc uniquement avec un équipage masculin.
Et on se dit... avec Melville Poupeau, ce qui est pas mal.
Oui. Pas mal, en effet. Là, j'ai pas trouvé parmi les soldats d'équivalent. On se dit donc le film va s'attaquer à ça, c'est-à-dire au point de vue, à la question du point de vue, pas seulement à l'idée de voir ou de ne pas voir à la guerre et de se débarrasser de ce qu'on a vu et qui serait horrible, mais aussi une question de cinéma, c'est-à-dire comment on peut filmer quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité sociale, en l'occurrence ça existe, c'est ça de décompression, mais le filmer avec un tour subjectif et en l'occurrence donc le point de vue singulier puisque c'est le point de vue de deux femmes mais quand même plus le point de vue d'Aurore je trouve que de sa copine Marine. Aurore étant un personnage qui réfléchit davantage, un peu plus introspectif et voilà. Et finalement, moi j'ai été très très déçue finalement, je suis désolée de le dire, par le film parce que j'ai l'impression que d'avoir eu beaucoup beaucoup de discours très très transparents justement, là où le film posait un programme de complexification de ce qui était vu et de peut-être de traduction des images, de travail sur les images. Il y a toute une thérapie basée sur la réalité virtuelle, donc des images, un petit peu comme dans un jeu vidéo, où il s'agit presque comme l'hypnose de revenir à des images traumatiques et de les transformer. Tout cela est passionnant, donc le pitch de départ est absolument passionnant, mais ensuite j'ai eu l'impression que le film ne proposait pas lui assez de solutions, ne faisait pas assez de propositions de mise en scène, et que du coup j'ai été laissée avec beaucoup de discours. Donc c'est un peu paradoxal puisque on parle de voir, de ne pas voir, de s'aveugler et finalement moi j'ai eu l'impression d'être laissée avec une sorte de dissertation ou d'illustration. Je suis désolée de.
Mais vous êtes là pour dire ce que vous avez vu vous-même, Charlotte Garçon. Antoine Guillot.
Je partage assez l'avis de Charlotte Garçon. Moi, j'ai été très séduit, au contraire, au début par le film. D'abord par le sujet, c'est-à-dire que filmer l'armée, c'est assez peu courant dans le cinéma français. Filmer le stress post-traumatique, ça l'est encore moins. On est vraiment dans des problématiques américaines, comme pour 17 filles qui s'étaient emparées d'un fait divers américain sur cette bande donc de jeunes filles qui voulaient pour se battre d'une certaine façon contre ses parents et contre la génération qui avait choisi la liberté d'avortement, décider, voilà, on tombe enceinte tout ensemble. Ce qui était déjà une façon de mettre des problématiques beaucoup plus américaines sur le sol français, à l'Orient, là d'où viennent les deux, non seulement réalisatrices, mais les deux personnages féminins du film. Donc déjà, cette question, je la trouvais très intéressante. Toute cette séquence de réalité virtuelle, qui est une façon de dire, en fait, on ne voit rien à la guerre. Tous les films de guerre, d'une certaine manière, sont mensongers ou sont filmés d'un point de vue extérieur, puisque la plupart du temps, on reste dans un char, l'action est extrêmement rapide, on n'y comprend rien. Donc cette façon qu'a l'État de reconstruire une image acceptable à la fois pour le gouvernement, pour la patrie et pour les soldats, pour refaire des machines à tuer qui accepteront de ne rien voir, je trouve ça effectivement très séduisant. Le film fonctionne aussi beaucoup comme ça sur des hiatus, c'est-à-dire on l'a entendu dans la bande-annonce, entre ces soldats qui reviennent à peine de la guerre, où ils voyaient des burkas partout, ils voient maintenant des strings tout le temps, l'opposition entre militaires et civils qui se la coulent douce dans leur Europe protégée pendant que eux voient vraiment la réalité de l'horreur du combat dans lequel ils sont. Alors donc tout ça est très passionnant. Et puis dès qu'on est en train de se dire ah voilà ça parle de ça, tout d'un coup un personnage se met face à nous et nous dit de quoi ça parle. Alors c'est le grand travers pour moi du film parce qu'il est adapté d'un roman qui avait été écrit par Delphine Coulin il y a 3 ou 4 ans. Et qu'on sent que dans le couple, je sais pas comment elles se répartissent les choses, les sœurs Coulin, mais on sent que le poids du scénariste est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il faudrait de temps en temps oublier le scénariste et qu'un réalisateur se dise comment je vais traduire toutes ces problématiques en idées pures du cinéma, qui sont là souvent par moment, mais qui sont toujours surlignées sans arrêt par un discours extrêmement didactique qui fait que le film est un peu maladroit, on dira pour ça.
Thierry Chaise, votre sentiment sur Voir du pays.
Mais je suis un peu d'accord. L'adjectif qui viendrait, c'est intéressant, ce qui est pas ce qui est jamais très très bon signe pour un film. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Antoine Guillot. J'ai l'impression que tout est là. Je suis assez fasciné, moi, notamment par cette représentation virtuelle qui vient se cogner au réel. Il y a des choses, un sujet qu'on n'a pas abordé du tout, que moi je ne connaissais pas. Tout est là. C'est aussi la question autour de l'Europe, justement. Comme vous l'avez dit, cette Europe où certains viennent en vacances, où d'autres viennent faire un sas avec les frontières autour. Il y a une espèce...
C'est Chypre, donc c'est Chypre. À moitié européen, à moitié non-européen, Turquie et Grèce.
En fait, tout ça est là. Tous les éléments sont là. Et c'est vrai qu'à un moment, peut-être qu'il aurait fallu en traiter un à fond, mais on a l'impression que tout est là et qu'on commente, et que finalement, alors c'est formidable quand ce sont les soldats et soldates qui commentent, parce qu'on voit que chacun a son point de vue, mais quand d'un seul coup il y a un discours sur le discours, ça devient un film totalement bocal, alors qu'il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi ces deux jeunes filles qui sont là finalement aussi pour lutter contre qui sont engagées en tous les cas pour lutter contre le chômage en France. Il fallait bien faire quelque chose. Et je trouve que, pareil, il y a un peu une caricature dans le personnage notamment qu'interprète Soko. Je trouve qu'il y a quelque chose, c'est pas de l'ordre de l'interprétation, mais qui est fait d'un bloc, qui fait que moi je suis plus intéressé par le personnage que Camp, en effet, Ariane Labed, sans doute parce qu'elle se pose des questions et qu'on est avec elle. Mais je dirais que voilà, ça m'a intéressé et je suis resté sur ma faim quasiment en permanence et jusqu'au bout.
Ouais, peut-être un problème pas un problème d'interprétation, vous dites, je crois que Soko, c'est pas d'une grande finesse, on a quand même déjà du mal à comprendre ce qu'elle dit, dans ce registre de marmonnement, qui se racle la gorge et grognon, donc c'est quand même tout d'un bloc, alors qu'effectivement, le personnage incarné par Ariane Labed, qui est tout en retenue, effectivement, vous l'avez dit en introspection, et qui laisse quand même aussi filtrer par moments des choses solaires, qui demandent qu'à s'épanouir, le film aussi parle de ça. Ça, je la trouve tout à fait remarquable et juste, alors que le personnage de Soko est quand même très caricatural, vous le disiez. Je ne vais pas rajouter tellement à ce que vous avez dit, puisque j'adhère à peu près à toutes les réserves. Je rajoute ça sous l'interprétation. Et c'est vrai qu'en plus, hormis Ariane Labed, il n'y a quand même pas non plus, même du côté des garçons, grand-chose à retenir. Ça joue la plupart du temps assez fort. Aussi, j'étais surpris et amusé de voir Jean-Yves Jouannet, qu'on connaît comme critique d'art, comme écrivain, jouer le rôle d'un gradé plutôt pas mal, d'ailleurs. Je trouvais qu'il avait effectivement la gueule de l'emploi. Mais bon, alors cette réserve près. Mais voilà, pour dire quelque chose de positif sur le film, je dirais que j'ai trouvé que le scénario, je ne parle pas des dialogues, hein, vous l'avez tous dit, je le dis aussi, l'exemple de la frontière Europe, non-Europe est vraiment dite, expliquée, montrée, soulignée, surlignée, bon, et tout le film est de cette eau-là, vous l'avez dit tous les trois, mais effectivement, il y a une construction, en tout cas, du film que moi j'ai trouvé assez juste. Je trouve que ça fonctionne par bloc, comme ça, de séquences. Et je les ai trouvées à chaque fois justifiées, ces séquences, ce qui est plutôt assez rare. Je trouve que, voilà, le film est vraiment construit avec l'avion qui les emmène entre l'Afghanistan et Chypre, ces différentes séances de débriefing, une échappée, mais qui a son sens aussi, un retour difficile. Et je trouvais que, voilà, au moins il y avait une construction. On parlera de problèmes de construction peut-être dans un instant avec les films suivant, mais là, j'ai trouvé qu'en tout cas il y avait une, ce qui est d'autant plus dommage d'ailleurs, hein, puisque comme vous, je trouve que les sujets sont passionnants, il y a une ossature scénaristique qui tient. Le problème, c'est ce qui est mis à l'intérieur. Antoine Guillot,
oui, ben, vous parliez d'interprétation, je trouve ça plus choquant quand on entend la bande-annonce où là on appelle soutien du corps des personnages et ça fait assez mal. Mais moi je m'étais fait une raison par rapport à ce jeu un peu faux, comme vous disiez, parce qu'on a quand même c'est là encore une piste très intéressante, des personnages qui jouent eux-mêmes un rôle sans arrêt qui est un peu faux, c'est-à-dire dans leur malaise ils vont surjouer la virilité ou le grognon ou le etc. Donc je trouvais que ça pouvait être porté au crédit du film. Mais il y a encore une piste qui est là et que j'aurais aimé voir plus explorée. Et le film tend vers ça dans sa seconde partie, c'est quand même la coexistence de ces corps féminins et masculins dans une promiscuité qui est celle de l'armée. Est-ce que ça peut provoquer chimiquement? C'est très étrange que ce soit le moment où ils s'éloignent de la vie militaire, où finalement le rôle qu'on joue en disant on n'est pas vraiment une fille, on est un militaire avant tout, commence à se briser. Donc voilà, il y a quand même un film qui à l'intérieur est potentiellement assez passionnant, ce qui fait que le film reste à voir malgré tout.
Charles Garçon.
Mais le fait que rien ne soit creusé, rien ne soit poussé à bout, c'est aussi quand même un problème pour moi dans la critique de l'armée qui est faite. Non pas que je sois militariste spécifiquement, mais on a l'impression que c'est très documenté, par exemple, sur cette thérapie par la réalité virtuelle. Mais si on y pense, ce qui nous est montré, ce serait l'idée que l'état-major peut finalement simplement faire des images de propagande à usage du soldat. Hein. C'est ça l'idée, c'est qu'on vous reconfigure le traumatisme que vous avez eu en quelque chose de justifié du point de vue moral, etc., pour que vous repartiez.
C'est une idée presque dickienne.
C'est intéressant, mais j'allais presque dire que c'est spontanément l'idée qui vient à l'esprit, alors que il y a tout un aspect de la thérapie qui ne s'applique pas qu'à l'armée et qui est effectivement, et ça c'est, on en a beaucoup parlé au moment des attentats récents en France, qui effectivement s'attaque aux images pour les modifier, mais pas forcément dans un but de propagande, mais dans un réel but thérapeutique. Et ça, c'est balayé regarder, finalement, parce que c'est plus intéressant ou c'est plus à la mode de critiquer l'armée. Donc je trouve que l'armée est aussi un petit peu facilement esquissée comme, comme une boîte à faire de la propagande pour les soldats. Et c'est bon, tout ça est un petit peu schématique.
Un dernier mot, Thierry Chaise, sur Voir du pays.
Vous parliez du scénario, c'est le prix qu'il a eu, d'ailleurs, à un certain regard. Ah c'est le prix du scénario. Vous auriez été un...
Je n'étais pas au jury.
Un parfait juge. Moi, cette question de la, du réalisme, je connais vraiment pas le sujet, donc j'avais plutôt tendance à faire confiance, en tous les cas, à la sœur Coulin qui a écrit et qui a l'air d'être documentée. Voilà, mais c'est agaçant de voir un film où on se dit, mais il y a tout pour qu'on l'aime, et à l'arrivée, on en est à discuter, et finalement, même si on aime beaucoup de choses, ce qui reste, c'est le négatif.
Bon, que nos éditrices et auditeurs aillent voir par eux-mêmes, Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin sort demain sur les écrans.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Nous parlerons tout à l'heure de Divine, de Houda Benyamia et de François Ozon. Avant cela, suivons les pas de Lucille Como qui nous guide vers le petit salon. Bonsoir chère Lucille.
Bonsoir Arnaud.
Vous m'avez confié que vous êtes embêtée ce soir.
Il n'est pas très confortable mon petit salon ce soir. Je voudrais parler d'un sujet qui est très banal et rodé dans la critique culturelle. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire ce billet. Je voudrais parler de ce qu'on appelle les films de banlieue et tout ce que ça entraîne et miné. C'est la question de la représentation des minorités, de la pauvreté, du déclassement des quartiers comme on dit. Mais bon, je me lance quand même. Alors de très nombreux journaux parlent cette semaine du film Divine. On va le faire nous-mêmes. Douda Benyamin. On en avait déjà beaucoup parlé au moment où le film a reçu la caméra d'or au Festival de Cannes et où elle avait alors prononcé un discours très véhément sur ses propres origines modestes et sa fierté d'avoir fait le film. Petit résumé florilège de la presse, on parle de films de banlieue, donc de films populaires, on parle d'énergie salutaire, on parle même de grands films politiques. Alors la question s'était posée déjà quand Bande de filles de Céline Sciamma est sortie, quand Dipane est sortie aussi de Jacques Audiard l'année dernière, la question de savoir ce que le cinéma français faisait des banlieues. Ça ne s'entend pas, mais je mets mille guillemets au mot banlieue parce que c'est déjà en soi une représentation. Et lorsque certains critiques en parlent comme d'une réalité avec un brin de condescendance mêlé de bonne conscience, je pense qu'elle se méprend et que là commence le malentendu. Représenter la banlieue dans un film, ce n'est pas représenter une réalité, ce n'est pas nécessairement livrer un discours sur les banlieues. En l'occurrence, je pense que ce qui réunit Dipane, Bande de filles et Divine, c'est que la banlieue est un décor, une sorte de boîte à outils scénaristique éventuellement, mais certainement pas un milieu sur lequel on tient un propos. Alors, on peut le regretter ou pas, on peut quand même rester perplexe devant cette absence totale de discours sur ce qui constitue une gigantesque faille de notre système. Je m'étonne donc que Télérama, cette semaine, annonce en couverture, en dessous du portrait des actrices de Divine, le nouveau cinéma politique. Dans l'interview de Télérama comme ailleurs d'ailleurs, Houda Benyamina déplore l'impossibilité pour le cinéma français de représenter les émeutes qui avaient secoué les quartiers populaires en 2005. On ne sait pas si elle entend par là qu'elle tente de combler ce vide. J'ai plutôt l'impression qu'elle ne fait que le creuser davantage. Divine n'est pas un film sur les banlieues, alors pourquoi sa réalisatrice ne cesse-t-elle, et une bonne partie de la critique derrière elle, de relayer cette idée-là? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce qu'elle a intégré ce qu'on voulait faire d'elle et de son film, ce qui serait extrêmement préoccupant pour le coup d'un point de vue politique? En bref, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire dire quelque chose absolument à ce film-là?
Voilà qui est bien embêtant comme question, alors qui va s'en emparer le premier ou la première? Tiens, Antoine Guillot. Écoutez, inspiration, expiration.
Je ne connais pas Houda Benyamina, donc je ne vais pas lui faire de procès d'attention sur la qualité et les raisons de son discours. Le fait est que le film de banlieue, entre guillemets, qui est déjà très mal nommé, parce qu'on pourrait dire que Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu est un film de banlieue, de banlieue riche, mais de banlieue. Donc il faudrait dire les films sur les quartiers populaires déshérités en périphérie des villes.
C'est un peu plus long.
Est un genre en soi qui au départ est un genre importé des États-Unis, c'est-à-dire c'est le film de ghetto acclimaté à la France avec ce moment où on on voit à peu près apparaître en même temps La Haine, Ma Cité va craquer, et d'autres films qui vont, alors beaucoup pour Ma Haine d'ailleurs, moins pour Ma Cité va craquer, va tenter de faire venir des codes qui viennent du film américain, avec le passage obligé du dealer, de la cité interdite à la police, des différentes typologies de personnages à l'intérieur. Donc ce qui fait que se construit une image de la banlieue qui est presque fantasmatique et à laquelle vont se conformer ensuite les jeunes qui eux-mêmes se mettent en scène dans les reportages télévisés. Il y a une bande dessinée excellente qui vient de sortir chez Casterman dans la collection Sociorama qui explique, très documentée, hein, parce que c'est une sociologue qui avait été dans les services, je crois, de France 2, observant comment on fabriquait l'image de la banlieue. Donc comment on envoie le reporter sur le terrain, filmer des gens qui jouent des personnages de films de banlieue, où on lui demande surtout, revient avec un plan de parabole et un plan d'ensemble de la cité, sinon on va pas comprendre qu'on est en banlieue. Donc tout ça est une construction qu'on retrouve de film en film. Alors après, au sein de ce genre-là très constitué, c'est comme dans tous les genres, il y a des cinéastes et puis il y a des fabricants de produits de banlieue, quoi. Donc quand on voit des films de Rabah Meurzaimech ou de Philippe Faucon, on est content parce qu'on va voir un film de Rabah Meurzaimech ou Philippe Faucon et pas un film de banlieue. Donc après, en faire un discours parce que c'est un argument marketing qui peut se retourner aussi, parce que certaines salles maintenant en banlieue, justement, dans ces zones périphériques déshéritées socialement et économiquement, hésitent à programmer ce film de peur d'attirer les personnes qu'on voit dans le film et que ça dégrade la salle ou l'image même de la salle. Donc c'est un argument marketing à manier à bon escient.
Thierry Chaise.
Oui, je suis assez d'accord. Le film de banlieue, entre guillemets, qui m'avait marqué, c'était De Brouet de Fureur dans les années 80.
J'allais le citer.
On était.
C'était avant La Haine et avant Ma Cité va craquer.
On est vraiment au milieu des années, voilà, milieu des 80.
C'est Jean-Claude Brissot.
Et il y a toute cette partie fantasmagorique aussi. Il y a une description.
Fantastique,
voilà, très claire de. Donc il fait aussi du cinéma. Dans le cas, je trouve, de la réalisatrice de Divine, c'est son discours à Cannes qui lance beaucoup cette thématique. Alors, même si les critiques étaient là avant, c'est cette idée de débarquer sur scène et de dire on est là. En gros, la banlieue est là, et on va vous. Et là, il commence à y avoir un hiatus, puisque entre son association, les choses qu'elle fait bien, tout commence à se mêler. Qu'il y a aussi l'aspect bonne conscience, malgré tout. Mm-hmm. Lorsque, je ne sais pas moi, mes confrères, mais lorsque les gens jugent du réalisme ou non de certaines situations, moi, je suis bien en peine de dire que c'est réaliste ou non. Ça peut me sembler ou non. Et à la limite, peu m'importe, je préfère les moments fantastiques de Jean-Claude Brissot à un réalisme qu'on me vend. Soit je crois sur parole, mais je vais dire « Ah, ça marche parce que c'est réaliste, c'est compliqué. » Ensuite, c'est vrai que au moment où sort La Haine, les images qu'il y avait plus tôt, quand on écoutait les reportages, je me demandais, c'était Scarface de Pacino. Mmh. Et que d'un seul coup, ça s'est modifié. Et qu'on a eu des sous La Haine, des sous Ma Cité va craquer. Et qu'il y a quelque chose... Moi, à chaque fois, d'ailleurs, quand on a parlé de Divine, on se réfère... encore La Haine, qui a quand même aujourd'hui plus de 20 ans. Et il y a quelque chose qui fait que, puisque c'est un film qui se passe dans les territoires défavorisés de la périphérie, d'un seul coup doit se plaquer forcément un discours politique et un discours de « c'est pas est-ce que c'est bien ou non, c'est est-ce que c'est réaliste ou non ». Et c'est là où moi je suis toujours un peu perplexe.
Mais ça dépend qui réalise, pardon.
Oui. Est-ce que c'est réaliste ou non? La question de Télérama, par exemple, c'est est-ce que ça refait le monde? C'est quand même des films qui refont le monde.
Oui, mais cette question, est-ce que c'est réaliste ou pas, c'est pas ça qu'on a posé à Jacques Audiard pour Dipane. Jacques Audiard, on lui a dit on vous utilisez tous les clichés de la banlieue, c'est dégueulasse, vous êtes un type de droite. On ne sort pas du tout le même discours à Divine, qui reproduit, on peut prendre séquence par séquence, les mêmes types d'images, les mêmes typologies de personnages. On en reparle, on parlera du film véritablement, parce qu'on parle de cinéma aussi dans cette émission quand même, on ne l'oublie pas, mais là on parle du genre, film de banlieue avec plein de guillemets, avec la version plus longue et plus juste d'Antoine Guillot, Charlotte Garçon.
Oui, j'ai ressorti un numéro des Cahiers du cinéma de 95 où Thierry Jousse se demandait, c'est le titre de son article, le banlieue film existe-t-il, hein, le banlieue film, avec une construction comme ça de mots composés à l'anglaise. Donc vous voyez, on va toujours se poser la question, est-ce que ça existe, est-ce que ça devrait exister? En réalité, et ça c'est en 95, et il situe le début, effectivement au début des années 80, 80, le début de ce genre de film, avec d'ailleurs pas mal de réalisateurs maghrébins ou d'origine maghrébine. Voilà, et on en parle. Il y a eu un trou à partir de La Haine, puisque Mathieu Kassovitz ne vient pas d'une banlieue populaire, non. Et voilà, et où, donc
il vient de la bourgeoisie.
Ce qui était revendiqué, me semble-t-il, dans La Haine, j'avoue ne pas l'avoir vu depuis un certain temps. Enfin, je l'avais pas vu en 95, j'avais quand même vu plus tard, mais c'est la stylisation, au contraire. C'est-à-dire qu'il me semble que ce que revendiquait Kassovitz, puisque de toute façon il ne pouvait pas filmer la banlieue de l'intérieur et que son propos n'était absolument pas documentaire, c'est justement d'échapper au sociologisme et de filmer en noir et blanc, par exemple, voilà, d'employer de vrais acteurs. Donc, il me semble qu'on est toujours dans cette problématique, j'allais dire, de pouvoir jouer un peu sur les deux tableaux. Mmh. C'est-à-dire que quand on vous accuse de ne pas être réaliste, bah, vous pouvez dire « Ah non, mais attendez, moi je suis quand même un cinéaste, donc excusez-moi, mais au diable le documentaire. » Et puis par contre, quand on vous accuse d'être trop stylisé, là, il faut avoir des techniques, j'allais dire, commerciales de présentation des films, comme ça a été fait quand même pour Bande de filles, avec la tournée des cinémas de Céline Sciamma, avec ses actrices et avec énormément d'éléments biographiques sur les actrices, pour reléguer le sociologisme au paratexte du film. C'est-à-dire que le film, lui, est très esthétisant et il ne s'agit pas du tout de faire un documentaire sur la banlieue, mais par contre on réintroduit du naturalisme en allant présenter le film dans les salles. Ça, c'est très rusé.
Lucille Gaumont.
Et la question politique est un tiers actant, en fait, dans le binôme voilà, réalisme pas réalisme, parce qu'après tout, la Haine, à mon avis, est un film qui dit davantage quelque chose du domaine du politique que Divine ou Bande de filles. Tout en étant en noir et blanc.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, Kassovitz avait été attaqué. Justement. Mm-hmm. Comment lui osait-il, ne venant pas de cette banlieue, en parler? C'était une vraie attaque de gens disant, bah, ce petit bourgeois, qu'est-ce qui va nous... Or, je pense, je suis tout à fait d'accord sur sa volonté de stylisation et de code. Et ces codes-là ont existé, ont été et sont devenus après des codes qui ont été repris par d'autres plus maladroitement.
Mais pour rappel, Ma cité va craquer, beaucoup moins de gens ont vu. Il y a un film très différent, hein, formellement. Jean-François Richer a un autre parcours. Il y a presque une dimension aussi fantastique dans la représentation ultra réaliste jusqu'au fantastique de Ma cité va craquer, qui est un film, alors lui, ouvertement politique et se voulant comme tel, comme de l'agit-prop quasiment. Mmh. Voilà, les deux films sont sortis à peu de temps d'écart, mais ils sont extrêmement différents sur la forme. Antoine Guillaume.
Ça, oui, pour le moins.
non, mais il faut le rappeler, parce que tout le monde n'a pas vu Ma cité va craquer non plus.
Ce qui se passe avec Divine, qui a un discours politique qu'on va pouvoir décortiquer tout à l'heure, c'est que le film devient politique en soi. C'est-à-dire que le simple fait qu'un film dit de banlieue soit réalisé par quelqu'un qui, entre guillemets, ne vient pas du Sérail, même si elle a fait des études de cinéma, il faut quand même le rappeler qu'elle a déjà un certain parcours derrière elle, devient un storytelling politique. C'est-à-dire qu'après, on peut le décortiquer. Politiquement, qu'est-ce que ça dit? Parce que politique, ça peut tout vouloir dire et l'éventail politique est assez large. Le film, mais presque comme une sorte de condescendance malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose d'exotique en se disant, oh, regardez, c'est la dernière femme issue de l'immigration maghrébine qui va filmer chez elle. Et donc c'est politique. Après, on creusait comment ça allait. Parlons-en.
Alors, peut-être aussi deux films ou deux cinéastes dont on n'a pas parlé, bizarrement, Abdelatif Kechiche, son nom n'est pas encore venu, et pourtant, bon, de l'esquive, la graine almulée, et même d'une certaine façon, la vie d'Adèle, mais aussi, je pense quand même à Entre les murs, alors qu'il techniquement n'est pas un film de banlieue,
puisqu'il est dans tous les classements, si vous cherchez sur Internet films de banlieue, vous avez des listes et des listes de films de banlieue, et Entre les murs y est systématiquement. Donc, c'est une périphérie à l'intérieur de Paris intramuros, ça remplit toutes les cases de ce que j'ai dit tout à l'heure comme définition plus extensive, mais
oui, pardon, ça joue, ça,
c'est en fait des films qui montrent des classes populaires effectivement défavorisées, désocialisées.
Et surtout issues d'immigration. Et des immigrations.
Ah oui, je n'avais pas pensé à inclure Entre les murs dans ce type de liste. C'est intéressant parce que je pense que ça situe le film de banlieue dans le rapport à la langue. Et donc il faut être très très doué comme dialoguiste. Et il me semble que Kechiche avait magnifiquement déplacé la question en introduisant Marivaux et la difficulté qu'il peut y avoir à dire du Marivaux quand on a 14 ans, qu'on est au collège en banlieue. Et en même temps, la façon dont, surtout, il ne faut pas jouer le contraste et il ne faut pas jouer l'exclusion entre cette langue du 18e et la langue actuelle, et il l'avait vraiment magnifiquement traité. Donc quand même au centre du film de banlieue, il y a quand même la question des dialogues, du rapport à la langue qui est très délicat, comme vous le rappeliez, Lucine.
Bon, ça s'arrête là, non? Vous voulez dire encore quelque chose, Antoine Guillot?
Non, je suis tout à fait d'accord, c'est dépasser l'opposition, le renversement, on va en parler maintenant.
C'est Richel?
Pas mieux.
Pas mieux. Fermons tout de suite les portes du petit salon. Eh bien, parlons-en de Divine, Ouda Benyamia présentait la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui en est donc reparti avec la Caméra d'Or. Je rappelle que c'est le prix remis au meilleur premier film, toutes sélections confondues, présenté à Cannes, ce qui n'est pas rien. On a évoqué la façon dont le film peut être accueilli ou commenté, ou d'ailleurs par sa réalisatrice comme par les médias. On va à présent s'intéresser à l'art qu'il utilise, le cinéma.
Une canette plus une barre chocolatée plus une sucette à 2 euros seulement. Qui peut fabriquer ? C'est une marque du futur. Même en Chine, ils n'ont pas sorti ça. Cricket.
Je vous donne la petite brochure contre le racisme.
Le sourire.
Non, mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie ? J'aimerais bien savoir. Toi ?
Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money.
Oh, qu'est-ce que t'as ? T'es comme ça, la patate, là. Vas-y, casse-toi, là.
Québec. Rebecca.
Tu veux quoi ?
On va bosser pour toi.
Tu crois pas l'emploi, quoi ? T'as du clitoris, j'aime bien.
Tiens tes courses.
20 euros ? Mais je préfère qu'elle aille au supermarché. Il faut oser être riche. Tu visualises la thune et elle viendra à toi.
On a qu'à juste se poser, visualiser, la thune, elle vient comme tu dis.
T'explique comment t'es ? Vroom ! Vroom !
Cadeau.
Putain, c'est l'iPhone 6 Plus.
Venez à mes jeux, Flos.
Depuis quand tu te prends pour une daronne, toi ?
Attends, vous allez où comme ça, là ?
Quand tu es dans ces étoiles.
Je sais même pas comment tu t'appelles.
Ouais, c'est con.
Mais quand t'es Dieu, t'as des responsabilités. T'es obligé de vivre sur tes enfants, c'est comme ça, c'est écrit.
Et ben, en attendant, il nous a pas connu.
Les mecs, c'est comme les chiens. S'ils sentent que t'as peur, ils te bouffent. Mais toi, t'as souvent l'air d'avoir peur.
Non, j'ai pas peur.
Oh, putain, tu vois que t'as peur. Bah, t'es flippante aussi, hein.
J'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup d'ennemis. Maman, j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, maman, j'ai beaucoup d'ennemis.
Divine est sortie sur les écrans mercredi dernier. On commence avec vous, Antoine Guillot.
Alors, j'ai été donc frappé, comme tout le monde, par le discours dont on avait parlé tout à l'heure.
Frappé donc, comment, Antoine ?
Bah, frappé avec un certain agacement, en trouvant effectivement que c'était un peu trop et que ça allait certainement desservir le film. C'est-à-dire, je sentais de faire ce film le porte-drapeau comme ça, à la fois d'une cause féministe, d'une cause sociale, d'une cause politique. Je trouvais que ça chargeait déjà beaucoup le film, donc j'y suis allé un peu circonspect en essayant d'oublier tout ça. Je m'attendais quand même, résultat, à un film quand même pas formidable, et j'étais au début plutôt agréablement surpris. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées en termes de cinéma, et surtout avec le sentiment que c'était la première fois que je voyais intégrer dans le film des éléments de la modernité jeune populaire qui allait au-delà de l'effet qui était utilisé pour un effet narratif, pour une vraie raison narrative, par exemple cette façon d'utiliser le FaceTime, donc ces images prises par les portables, ou cet écran vertical qui est celui du smartphone quand on filme une image.
C'est Snapchat, tout le générique
de Snapchat,
enfin voilà, très précisément
tous ces éléments que je regarde d'un peu loin mais dont je sais qu'ils existent, je les trouvais assez bien intégrés au film, y compris une façon de jouer qui vient je vais utiliser encore un mot anglais, mais c'est comme ça, du stand-up, c'est-à-dire cette façon à la Jamel Comedy Club de faire de la tchatche, de faire des effets, qui est intégré aussi à la fois par les personnages et par les comédiens. Je trouve qu'il y a un abattage comme ça qui marche assez bien. L'idée de renverser systématiquement le principe, c'est-à-dire de mettre du féminin là où il y avait du masculin et inversement, je trouve ça assez bien mené, c'est-à-dire de montrer ce qui peut être un regard désirant féminin sur un homme rendu au statut d'objet sexuel, je trouve qu'on j'y croyais, et l'inversion de faire d'un homme quelqu'un de gracieux qui danse, etc. On voit très bien les ficelles, je trouvais que ça fonctionnait pas mal. Ce qui m'a
Stop
le plus... Non, je peux dire la dernière chose qui m'a séduit, on dira après,
les critiques. Je crois que c'était fini pour le côté positif.
Dernière chose, une manière de montrer la circulation qu'il y a entre les espaces très contraints de cette cité, donc cette manière de passer par un couloir, par une fissure, par des cintres d'une mosquée, un lieu de deal, un théâtre, toute cette circulation-là, je la trouve assez bien menée. Donc, premier regard, et j'y reviendrai peut-être après,
mais vous allez
j'étais... plus plutôt agréablement surpris.
Bon, plein de points positifs, je reviendrai bien sûr vers vous Antoine. Thierry Chaise.
Bah oui, alors on va reprendre là. C'est-à-dire que le film ressemble, je trouve, exactement au discours qu'elle a eu au moment de Cannes. Les premières secondes, on se dit « Ah, un vent de fraîcheur !» Et au bout de 2 minutes, et puis les 6 minutes, on n'en peut plus.
Ah, donc, carrément, ça a été très vite pour vous.
Ça a été... Non mais, pour le discours, je parle. Donc c'est pareil pour le film.
Ah pardon, pour le discours,
voilà,
oui.
Pour le discours, voilà. Donc,
En termes de proportion. Vous êtes allé au-delà de 2 minutes dans
voilà,
le film.
En termes de proportion. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Antoine sur ce démarrage, ces promesses qui sont là. Je trouve, moi, la comédienne Oulaya Mamra absolument assez impressionnante, arrivant à garder un peu de, par moments, de calme au milieu de cette hystérie généralisée. Simplement, au bout, une fois qu'on a installé les personnages, qu'on a installé ce climat, qu'on a installé ces codes, il faut raconter une histoire. Et que l'histoire qui se raconte en elle-même est quand même, tient sur une feuille de papier à cigarette, tire en longueur terriblement, et arrive du coup à ce que ce qui pouvait être de l'énergie se transforme assez vite en hystérie. Et moi, je trouve, j'ai fini par trouver ça assez insupportable, donc à la manière du discours qu'a tenu la réalisatrice sur scène, c'est-à-dire que on dit des choses, on les répète, on les commente, on les répète, on les répète. On parlait tout à l'heure de Belkacem, je vois là un cinéaste qui peut aller jusqu'au bout de l'épuisement. Il y a certaines scènes où en effet on n'en peut plus, mais j'ai le sentiment que dans ces cas-là, il y a quelque chose de l'ordre du cinéma, là, cette tchatche permanente, qui peut être réaliste, qui peut être tout ce qu'on veut, moi en tous les cas, se retourne à un moment contre le film.
Alors juste une assise avant de donner la parole à Charlotte, moi je trouve qu'il y a le problème, c'est qu'il y a plusieurs feuilles de papier à cigarette. C'est un des problèmes, c'est le multifeuille à papier de cigarette qui pose problème. Charlotte Garçon.
Oui, tout à fait. Ce film, c'est effectivement comme les différents discours de sa réalisatrice, contient tout et son contraire. Je dis ça parce que moi, je l'ai vu avec une autre présentation, non pas le discours de cérémonie de la Caméra d'Or à Cannes, mais la présentation du film à la Quinzaine. Et il y avait tout. Et notamment une phrase que j'avais notée à l'époque qui dit Je voulais juste dire qu'un réalisateur, c'était rien. Donc ça, c'était une phrase pour parler de son équipe, en fait, pour rendre hommage à son équipe. Et en réalité, après, il y avait un quart d'heure quand même de discussion de micro tenue par elle-même. Donc vous voyez, c'est le problème, c'est cette contradiction de parler de collectif, de venir de l'associatif et donc de faire l'apologie d'un travail collectif et en même temps de se mettre toujours en avant. Et il m'a semblé aussi que c'était le problème du film. Sur la subversion, sur avoir du clito au lieu d'avoir des couilles, excusez-moi, mais c'est ça. Simplement le fait, non, je veux dire, le fait d'inverser tout simplement les rôles, les représentations de genre, pour moi, ne change rien. C'est-à-dire que on peut pas parler de féminisme simplement avec cette inversion-là. En tout cas, on n'arrive pas à quelque chose qui subvertit si on reste dans le binarisme. Donc ça, c'est un autre problème du film qui est clairement fasciné, effectivement, par les modèles, bon, américains. On parlait de Scarface tout à l'heure. Moi, je pensais plutôt à Scorsese, notamment avec le final complètement délirant du film, là, de ce film si divine dont on ne dira rien, mais c'est quand même... c'est quand même emprunté énormément et aux affranchis de Scorsese et à d'autres choses, dans des représentations, l'utilisation de la musique sacrée avec des images violentes, du sang, etc. Tout ça est très emprunté. Donc quand on dit c'est enfin un cinéma frais, enfin une voix nouvelle, faut quand même cette voix nouvelle, elle est quand même très très composite et elle est empruntée à des choses très très connues. Donc déjà il y a quand même un paradoxe. De même, parler de la fraîcheur de cette interprète qui est la jeune sœur de la réalisatrice, alors que la réalisatrice se vante de justement de l'avoir fait entrer au Conservatoire national grâce à ce rôle. Donc vous voyez, il y a toujours cette espèce de...
Ça c'est faux, parce qu'elle est rentrée sans que le jury ait vu le film. Elle est rentrée dans ses qualités.
Non,
on ne fait pas rentrer quelqu'un au Conservatoire.
Non, mais de l'avoir formée. De l'avoir formée à cette exigence.
C'est un peu délirant quand même de dire une chose pareille.
Donc vous voyez, moi j'ai eu l'impression d'une intimidation et j'ai horreur au cinéma d'être victime d'une intimidation. Aussi bien dans un discours introductif d'un film que à l'intérieur d'un film, puisque cette obsession de l'argent se traduit au départ du film dans une scène, alors je crois qu'on l'entend, dans laquelle une prof de BEP essaye de dire voilà comment se présenter quand on veut être embauché ou quand on veut accueillir des gens, et où on entend bien que c'est la rébellion, je veux pas gagner 1 500 € par mois et payer un loyer comme toi de 800 €. Donc c'est assez drôle, mais en même temps cette idée de vouloir absolument de l'argent et de l'argent facile facilement gagner. Malheureusement, le film, me semble-t-il, porte ce discours-là vraiment. Et il porte pas tant un discours distancé. Or ça, c'est tout simplement le capitalisme à un autre tour de spirale et qui est reconduit. Donc, sous prétexte d'être anti-système ou alternatif au système parce que ce serait une minorité qui s'exprimerait, il me semble que c'est tout à fait dans les clous. Enfin, la logique de l'argent,
oui, avec une morale, une morale à la fin qui n'arrange rien. Mais l'utilisation de la musique, moi, je trouve que c'est, voilà, on peut prendre juste par ce prisme-là, parce que ça m'a énormément agacé, parce qu'effectivement, il y a tout. Donc, tout s'annule, d'une certaine façon, entre le rap, le chant oriental, et puis du Handel, un peu beaucoup, passionnément. Ça, c'est vrai que c'est toujours très très bien, donc on peut mettre n'importe quelle image dessus, et ça passe. Et le rapport d'ailleurs à l'art, avec la figure du danseur, est quand même d'une... c'est plus des ficelles, ce sont des câbles de sous-marin, tellement c'est énorme. Mais voilà, la musique, c'est je vais mettre de la musique là, ça va amener une émotion, parce que évidemment je ne dois pas avoir suffisamment confiance en ma mise en scène pour penser que ça viendra de la mise en scène seule, ce qui est dommage, hein, parce que moi je pense qu'aussi, comme vous, que le film recèle potentiellement, un peu le même discours que pour Voir du pays, recèle potentiellement des choses, qui a une énergie, et c'est notamment par son interprète principale qui le doit à elle seule, hein, d'être bonne. Bon, bien sûr, elle est dirigée, mais il y a un manque de confiance et tout ça est sécurisé, hein, de tous les côtés, au niveau du discours, au niveau formel. C'est un film qui est très très clôturé, très bordé finalement, Divine. Antoine ?
Oui, je suis d'accord avec Charlotte, justement, sur le principe de ce renversement. On aurait besoin de quelque chose qui dépasse, de quelque chose de vraiment dialectique. C'est-à-dire qu'on dépasse le simple renversement. On parlait de films de banlieue. Il me semble que Fabrice Genestal, dans La Squale, cherchait justement un dépassement de cette opposition des filles qui reprenaient les codes des garçons. Et quant à la musique sacrée, moi, je crois que c'est pas simplement un effet facile, effectivement, de nous émouvoir avec le Nisi Dominus de Vivaldi ou avec un Lacrimosa, mais de rechercher une transcendance dans le film, et je parlais de discours politique tout à l'heure, qui là commence un peu à me gêner. C'est-à-dire le côté Dieu nous regarde, est-ce que nous avons est-ce que nous ne sommes que des poussières, ou est-ce que nous méritons notre destin, etc., avec des choses extrêmement dérangeantes qui est limite, vous l'avez bien cherché dans le film. Moi, pour le coup, me pose des vrais problèmes. Il se trouve que la réalisatrice a réfléchi longtemps. Est-ce que je vais appeler mon film Divine ou Bâtarde, comme ça avait été prévu au départ, puis de se dire elles sont divines, divinement belles, divinement formidables, etc. Mais la problématique de la transcendance et du sacré qu'elle introduit dans le film est pour le coup maladroitement utilisé et tendancieusement politique. Moi, ça me gêne un peu.
Un petit mot de Lucille Como sur Divine.
Pas sûr qu'il y ait quelque chose de politique, moi, personnellement. Je pense que c'est un peu comme tout le reste, une sorte de d'embellissement général, une imposture. Mais moi, je trouve qu'en fait, la seule scène dont parlait Charlotte Garçon, qui est intéressante et qui est politique pour le coup, c'est cette première scène avec la prof de BEP. Et c'est le début. On attend quelque chose de ce point de vue-là, je trouve, d'un rapport de force qui se met en place. Et tout serait à plat. Au fil des scènes.
Mais il y a Charles Garçon.
Scène intéressante, c'est justement le fait que le danseur dont tombe amoureuse l'héroïne, clairement c'est un danseur de danse contemporaine, c'est quelqu'un qui a un chorégraphe qui lui donne des instructions, et on est vraiment dans le cas où, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres chorégraphiques, que ce soit Pantin, que ce soit dans d'autres banlieues, mais principalement à Pantin, avec des travaux très très pointus.
Absolument.
En art contemporain, en danse contemporaine, avec des populations locales. Et il y aurait eu quelque chose à faire.
Bah, encore un sujet, encore une feuille de cigarette.
Et moi, je trouve là les scènes d'amour, enfin, de regard l'un sur l'autre, entre d'esquisses de danse commune, plutôt réussies, si parce que ça passe par la forme.
Ça, c'est le moment de chorégraphie, un des moments qui m'ont séduit aussi dans le film.
Bon, il y avait des choses dans Divine. Bon, Divine a déjà été beaucoup vu depuis mercredi dernier. Il est bien sûr à l'affiche, ce film de Houda Benyamina.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Troisième dispute du soir autour de France, de François Ozon, l'un des chouchous d'Antoine Guillot. C'est ironique, hein. Dans deux semaines, c'est son vrai chouchou, Xavier Dolan, qui sera à l'affiche. Le cinéaste français adapte cette fois une pièce de Maurice Rostand, écrite juste après la Première Guerre mondiale, une pièce que Lubitsch a également adapté au cinéma sous le titre Broken Lullaby. L'action qui est située au départ dans une petite ville allemande, que je vous laisserai le soin de prononcer, où l'on va découvrir la jeune Anna, qui se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Franz, mort au combat. Et un jeune homme français vient lui aussi se recueillir sur cette tombe.
Elk. kommt seit 2 Tagen zu dem Grab von Franz.
Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg.
Willkommen.
Und Sie kannten Franz?
Ja.
Aus Frankreich.
Oui.
Pensez à lui toujours.
Comment pourrais-je l'oublier?
Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten, ja?
Vous veniez souvent ici?
C'est ici que Franz m'a demandé, maman.
Alors, je précise à nos auditeurs que j'ai ouvert le dossier de presse et que j'ai vu qu'il y avait une note à l'attention des journalistes, deux points ouvrés les guillemets. Merci de ne pas révéler aux spectateurs le secret d'Adrien. Pas d'inquiétude, hein, parce que je pense que le secret résiste à peu près aux 5 premières minutes du film, générique compris. Et donc, je peux dire que Adrien... Non, je rigole. Je n'ai pas divulgâché, mais ça ne dure pas très longtemps, Thierry Chaise, le suspense quand même, non ?
Non, et ce qui dure un peu plus longtemps, c'est l'espace.
C'est le film.
Entre le dernier film de François Ozon et celui-là, c'est 2 ans. Et pour lui, c'est hors
corps.
C'est
une traversée du désert.
François Ozon, c'est 6 films en 10 ans, ce qui est quand même énorme, sachant qu'il les écrit, enfin, il travaille à l'adaptation. Donc, il enchaîne et le principe, c'est a priori toujours d'essayer de ne pas se répéter. Mmh. C'est-à-dire qu'après Jeanne et Jolie et Une nouvelle amie, on part sur un film entre guillemets historique, Première Guerre mondiale, donc dans les pas de ce jeune homme qui vient, comme vous l'avez dit, se recueillir sur une tombe et de cette jeune femme qui se demande bien pourquoi il est venu ici. Alors, je sens que ce film va être adoré ici, donc je vais... je ne sais pas pourquoi.
Non, j'étais un peu ironique.
Il y a des choses... Ce que j'aime bien chez François Ozon, c'est cet essai à chaque fois de trouver des pistes et de cultiver une certaine ambiguïté et surtout de révéler des gens. C'est lui le premier qui avait fait tourner Michael Fassbender, vraiment le tout premier avant qu'il devienne ce comédien connu de Steve qui a tourné avec Steve McQueen entre autres et qui aujourd'hui est une star entre guillemets d'Hollywood. Et c'est lui qui a fait tourner la première mais qui révèle cette comédienne qui s'appelle Paula Baer, comédienne allemande, que je trouve vraiment moi... l'intérêt majeur du film, il se dégage quelque chose d'elle que je trouve assez romanesque. C'est ce romanesque que cherche à toucher Ozon dans un film qui finalement mélange plein de choses. C'est à la fois donc ça se veut un suspense puisque comme vous l'avez dit, il y a une note, donc il y a un but, il y a un secret, donc un suspense. Il y a le récit initiatique amoureux. Cette jeune femme qui va évidemment tomber sous le charme de cet inconnu. Et puis, il y a le portrait, ça se veut aussi le portrait d'un pays meurtri par la guerre, en l'occurrence l'Allemagne de 1918, et divisé forcément sur l'attitude à tenir face au vainqueur. Donc là encore, c'est un peu la thématique du jour, énormément de sujets, avec cette volonté donc de mettre une mise en scène en noir et blanc, et par moments, la couleur revient. Et si je dois symboliser ce qui me dérange moi, dans ce film, c'est justement... cette arrivée de la couleur à certains moments, qui c'est un, alors on peut penser, enfin c'est la vie qui revient dans vous, qui ressurgit.
Ah bon, dans c'est cette... ça que ça veut dire.
Voilà, je vois que vous m'approuvez totalement, et ça symbolise un peu le côté. Regardez, je vais jouer. Ozon, j'ai l'impression que tous ces personnages, c'est un grand enfant qui a des jouets, qui veut amuser aussi les adultes. Vous n'allez pas trouver tout ça. À partir du moment où on devine ce qui se passe, forcément, le film perd son intérêt. Et justement, ce côté couleur noir et blanc. Très appuyé, c'est un peu comme le film, une fois que vous avez tiré la ficelle, forcément, l'effet magique s'en va.
Charlotte Garçon.
Bon, alors moi, je voudrais vous demander, quand est-ce que vous avez tiré la ficelle ? Parce que moi, malheureusement, au bout d'une minute, je me suis dit, ah mais c'est un remake de The Man I Killed, Broken Lullaby de Lubitsch, et comme je l'ai vu, et que je m'en souviens,
fois.
Non, enfin, quelques fois, du coup, c'est un problème pour la,
ouais,
pour
enfin,
la vision du film.
Vous êtes très, très, très minoritaire, Charlotte Garçon.
Oui, non, mais je veux dire...
Donc, parce que même
vous,
quand
c'est
on
fini,
est
avec
Lubitsch,
vous, c'est terminé.
C'est pas le plus...
Vous, c'est 30 secondes, ça.
C'est pas terminé, parce qu'il reste 2 heures. Et il reste 2 heures, mais ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir le choix qu'a fait Ozon, qui est de substituer au suspense, je vais faire le Hitchcock, substituer au suspense la surprise. C'est-à-dire que chez Lubitsch, vous savez d'emblée qui est ce Français.
C'est la scène d'exposition.
Voilà. Qui est ce Français ? Quel problème il a ?
C'est une confession, hein, c'est ça ?
Oui, c'est un prêtre. Bon. C'est dans un confessionnal, effectivement. Et voilà. Donc, ça change tout. Effectivement, ça change tout. Et je trouve intéressant, quand on fait un remake, et d'autant plus un remake de Lubitsch, voilà, de déplacer librement. Et ce qui est déplacé, c'est aussi le point de vue. C'est-à-dire qu'on n'est plus du côté du
soldat, de sa culpabilité, en fait, c'est l'objecteur de conscience. Le film de Lubitsch, c'est quelque chose sur la solitude profonde, existentielle, de l'objecteur de conscience et qui n'en sortira jamais, en fait. Alors que Ozon effectivement nous enveloppe dans le regard de cette femme, jouée par Paula Baer, qui a une photogénie absolument énorme, surtout en noir et blanc. Et donc, on est quand même matraqué avec ce visage. Enfin, c'est surtout ça. On est enveloppé dans ce point de vue parce qu'elle est extrêmement belle. Donc, il y a un déséquilibre.
Non, mais bon, vous pensez ce que vous voulez. On veut nous la vendre comme la nouvelle Romy Schneider. Faut quand même s'accrocher. C'est pas parce qu'il y a une jeune allemande que c'est Romy Schneider.
Il y a une ressemblance avec Ornella Muti ou un beau visage.
Moi, je suis pas en extase devant Paula Baer.
Le problème, c'est que ça psychologise quelque chose. C'est-à-dire que ce qui était très sec, extrêmement sec chez Lubitsch, devient extrêmement psychologique. Donc du coup, il déplie les choses. Moi, j'adore les mélodrames, donc c'est pas le problème de que ce soit mélodramatique. Mais le problème, c'est que ce soit très individuel et psychologique. Et du coup, ça dure très très longtemps. Et il va même prolonger l'action du film de Lubitsch, justement sous cette idée que la vie continue. C'est-à-dire que la guerre est finie, mais il faut encore vivre après. Ceux qui sont pas morts, il faut encore qu'ils vivent. Ceux qui étaient ennemis, il faut encore qui vivent ensemble, etc. Ça, c'est plutôt intéressant parce que ça recoupe une préoccupation dont j'ai pas vu tous les films d'Ozon, mais il me semble qu'elles sont quand même au cœur de, par exemple, Le Temps qui reste avec notre chère Melville Poupeau, où c'était, voilà, quand on a peu de temps à vivre, la vie continue quand même. Et n'empêche qu'il faut meubler ces quelques mois à vivre et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc lui, il est plutôt là-dedans. Il me semble qu'il est plutôt dans ça qui s'installe, à savoir comment la vie continue. Sauf que ça, c'est des questions de durée et des questions de rythme et elles sont pas forcément bien, bien négociées.
Ah, c'est moins compliqué parce que moi, j'ai pas de problème non plus avec le mélodrame. Je vous donnais la parole, Antoine Guillaume, mais c'est vrai que déjà, les premières images, on se dit, tiens, il a piqué le chef-op du ruban blanc d'Haneke, mais on voit tout de suite qu'on est plutôt dans le registre du pastiche. Les passages en couleur sursignifiants, vous en avez parlé, Thierry Chaise, c'est vrai qu'il y a quand même une reconstitution, je ne sais plus pour quel film on parlait de ça la saison dernière, la reconstitution ultra quand même pataude, très, très reine, et puis vraiment la catastrophe atmosphérique de Pierre Niney quand même. On n'en a pas parlé de lui. C'est pas possible de tenir un premier rôle en étant dans une... Il a le charisme d'une amie, mais il est dans une sorte de... Il geint constamment, la tête un petit peu penchée. Enfin, il y a un problème et de direction d'acteur, mais quand même d'incarnation, me semble-t-il, Antoine.
Vous m'ôtez les mots de la bouche.
Une fois que je parle avant vous.
Arnaud Laporte, je crois que Charlotte Garçon a prononcé le maître mot de ce film. Elle a parlé de meublé. Effectivement, c'est un film qui est très meublé. J'ai lu quelque part les bras m'en sont tombés, alors que ça faisait effectivement penser au ruban blanc d'Haneke, mais j'ai même lu la référence à Heimat, ce qui a tout d'un coup m'a désespéré.
C'est pas quelqu'un qui ne l'a pas vu.
Absolument, parce que pendant tout le temps... Non seulement pour le noir et blanc, mais pour la reconstitution d'une époque. C'est-à-dire qu'on pendant tout le film, je disais, tiens, je reverrai bien n'importe quel épisode de Heimat à la place, parce que cette époque n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'il reconstitue, c'est les reconstitutions SFP des années 70. Le figurant qui est le même en bout de quai, parce que quand même par économie on a tourné les deux mêmes séquences de train, donc on a toujours le gros barbu au bout, les autres très bien habillés qui passent consciencieusement dans le plan au bon moment, donc il y a un ennui absolu. Pierre Niney, comment croire que quiconque puisse tomber amoureuse de ce personnage, enfin, ou alors on en fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on en joue la névrose d'une femme qui a besoin de tomber amoureux de quelqu'un et
c'est
on
un peu
en
ce qu'il fait quand même.
Oui, mais c'est on n'arrive même pas à y croire à ça, c'est-à-dire
que les parents sont sous le charme aussi.
C'est tellement volontariste. Le vrai problème de François Ozon, c'est qu'il y a deux catégories dans ce qu'il fait. Il y a les films où il se place en surplomb, c'est-à-dire que c'est les films camp avec huit femmes en acmé de cette tendance. Et moi, je trouve ça très déplaisant, mais pour le coup, il sait faire ça. Et puis les films où il essaye d'y aller, franchement, tendance sous le sable. Et là, généralement, il s'enlise effectivement dans le sable. Donc là, c'est exactement le cas dans ce film qui est interminable, qui est sursignifiant. Le noir et blanc, quand on écoute pourquoi Ozon a choisi le noir et blanc, là encore les bras nous en tombent. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire c'est un choix artistique fort, je vais en faire quelque chose. Non, c'est simplement que ça coûtait moins cher de filmer en noir et blanc parce que ça a évité de voir que cette belle ville de Quedlinburg où il tourne est maintenant complètement repeinte avec des couleurs vives et que ça collait pas du tout. Et puis la couleur, pourquoi elle revient? Mais parce qu'il aime bien la couleur, donc il cherchait un moyen de remettre de la couleur dedans. Et le film se ressent de cette absence permanente de choix artistiques, éthiques, moraux dans cette façon de raconter de façon extrêmement lourdingue quand même cette histoire de réconciliation possible entre la France et l'Allemagne et de comment dépasser le deuil et filmer le mensonge comme mon maître Éric Rohmer.
Et au rang du lourdingue, l'utilisation de la musique qu'on a pour aller pour Divide, mais là dans France, elle est quand même assez gratinée aussi. Charlotte Garçon.
Oui, en vous écoutant, je me dis qu'effectivement, Ozon n'ose pas, sans jeu de mots, aller au bout de l'anti-romantisme qui le caractériserait et qui d'ailleurs caractérisait Lubitsch, parce que même chez Lubitsch, il n'y a pas vraiment d'amour dans ses comédies. C'est toujours une attraction érotique très forte, etc. Et c'est ça qui fait la force des comédies.
La pulsion.
Voilà. Et finalement, on a l'impression que là, il se force à être romantique et on voit que ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route.
Du tout. Ouais.
Pierre Richaise.
Il y a un côté scolaire qui veut être bon élève. Et dans la plupart de ses films, même les plus fous, entre guillemets, en tous les cas, même 8 femmes et tout ça, il y a ce côté toujours un peu scolaire.
Vous vous rendez compte, ça fait 20 ans qu'il fait du cinéma, il a encore besoin de prouver ça, c'est quand même...
Mais il y a toujours quelque chose, mais moi j'aime plus Ozon que vous, mais à chaque fois, ce qui me gêne, c'est en effet ce côté, on va rendre une copie propre. Alors, le cinéma et les films, c'est pas forcément les copies les plus propres qui sont, bien au contraire. Et
oui,
là,
oui.
C'est là où, sur un film comme ça, c'est encore plus dommageable, évidemment.
Mais du coup, pour finir. Le jeu de Pierre Niney porte ça. Moi, je trouve qu'il y a une gêne, ou il y a quelque chose là de... Et dans le film de Lubitsch, il y avait aussi un acteur dont j'ai oublié le nom, qui était assez falot, et on lui avait fait même faire des retakes. On l'avait rappelé pour qu'il retourne, parce qu'on trouvait qu'il avait l'air un petit peu comme ça, falot, perdu. Et donc, il y a quelque chose dans ce film qui serait une force du fait que les pères ont envoyé au casse-pipe leurs enfants. Et ça, c'est un scandale générationnel, moral. Et le film l'intègre, le film d'Ozon l'intègre, mais tout en passant dessus, sa manière de rouleau compresseur, c'est dommage.
Bon, dommage. Allez vous faire une idée par vous-même en voyant France de François Ozon qui sort demain sur les écrans français. Il est en compétition à Venise. On verra bien quel sort lui réservera le jury.
Si c'est le même type de jury qu'à Cannes, tous les espoirs sont permis.
Bon, allez savoir. Allez, avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, en commençant par un petit rappel concernant le jeu d'hier soir, pour en connaître la réponse, sinon tout le monde attend cela. Lucille Como.
La question est-elle, le romancier James Ellroy est à l'honneur du Festival America. Son dernier roman s'appelle Perfidia. L'action se déroule à Los Angeles au moment de l'attaque de Pearl Harbor. Quelle est la communauté qui est au centre du roman? Et la réponse est la communauté japonaise.
Ça reste le cas en effet. Ce soir, on fait gagner des livres, Destins inoubliables, livre anniversaire de l'émission Une vie, une œuvre, sur la direction de Mathieu Garrigou-Lagrange. C'est une coédition France Culture et Albin Michel. Quelle est donc la question, Lucille?
Alors, la dernière émission Une vie, une œuvre, samedi dernier sur France Culture, était consacrée à Léo Ferré. Léo Ferré qui avait rencontré à la radio Georges Brassens et Jacques Brel en 69, une émission mythique. Sur quelle antenne avait-elle eu lieu?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Charlotte Garçon, Lucille Como, Thierry Chaise et Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations concernant cette émission sont trouvables sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Notez-le, il y a une page spécifique pour le petit salon de Lucille Como, comme il y avait autrefois. La revue de presse culturelle d'Antoine Guillot, c'est vieux déjà, ça date d'il y a 2 mois. Donc voilà, il y a une page pour le petit salon. Vous pouvez également vous abonner bien sûr à ce podcast. La dispute est possible grâce à Lucille Como, Daniel Finot, Virginie Le Duo, Josué Morel et Boris Pinault qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. Prise de son assurée ce soir par Eric Boisset. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Corinne Rondeau et Anaël Pigeat. Notre affiche, Le Monde à ma fenêtre, Joseph Sudeck au Jeu de Paume, et puis Rester vivant, Michel Houellebecq au Palais de Tokyo. On évoquera aussi Pictures, S'approprier la photographie New York 79-2014, un livre paru au Point du Jour, et puis Mike Nelson Cloak au nouveau Musée National de Monaco. Tout cela c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, discussion du soir, dans quelques instants, le journal de la rédaction.